Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous fidèlement de Radio Foot International en cette fin de journée. Nous évoquerons aujourd'hui, parce qu'il y a de l'actualité sur la planète football, nous évoquerons l'AS Monaco qui trébuche encore. L'équipe du Rocher sortie par le PSV Eindhoven hier soir, sortie de la Ligue des Champions pour retomber en Ligue Europa. Des monégasques trop friables en fin de partie, ça se répète. Quelles conséquences pour le club de la Principauté et pour le football français ? Nous en parlerons. Alexis Sanchez, la nouvelle recrue de l'OM. Un attaquant expérimenté qui a joué dans les plus grands clubs européens. Mais à 33 ans, qu'apportera le Chilien aux Phocéens qualifiés en Ligue des Champions ? Reprise de la Serie A en fin de semaine en Italie. Quels sont les favoris de la prochaine saison ? Les Milanais encore trop forts pour l'emporter ou bien sous pression de la Roma et de la Juventus de Turin ? Matteo Cioffi sera en ligne pour nous en dire plus. Pour l'instant, dans ce studio, nos invités du jour, ils reviennent, ils accourent à l'émission. Bonjour Carlos Bianchi.
Bonjour Annie, quel plaisir d'être avec vous.
En plein milieu de cet été parisien. On est tranquillement dans notre studio.
Je suis venu avec un pullover, comme tu vois.
Ouais, une jolie chemise blanche qui fait ressortir votre bronzage, Carlos. Bonjour Franck Simon.
Bonjour Annie Gasnier.
Tout va bien ?
Et vous-même ?
Il a essayé de se cacher, Franck, aujourd'hui, en dissimulé en couleur kaki, mais
absolument.
Bon, dans le rouge du studio, finalement, ça se
voit. Je prépare
ta couleur kaki.
Je prépare mon incorporation, Nabil.
Bonjour, Nabil.
Bonjour, Annie. Bonjour à tous. Bah, plaisir d'être avec vous et de vous retrouver pour cette
nouvelle saison.
Exactement.
Une nouvelle saison aussi dans Radio Foot International et pour tous ceux qui nous accompagnent fidèlement depuis plusieurs années. David Finzel, justement, qui nous accompagne depuis plusieurs années, ainsi que Pierre Guérin et Laurent Salerno, sont là à la baguette eux aussi. Radio Foot, c'est parti.
Saudade, palavra triste.
Saudade, une grosse moustache et une chevelure volumineuse à la mode des années 70-80. C'est l'image que l'on gardera du joueur portugais passé par Bordeaux, notamment Fernando Chalana, décédé ce matin à Lisbonne à l'âge de 63 ans. C'était surtout un grand joueur du Benfica. Il y était une star. On l'avait surnommé là-bas Pequeno Genio, c'est-à-dire le petit génie. Et en France, il s'était illustré par un tir au but qui avait en plus épaté son entraîneur d'alors lorsqu'il était à Bordeaux, Aimé Jacquet. Écoutez ce document d'archives.
Et c'est Fernando Chalana maintenant sur qui tout repose. Et Chalana marque ce pénalty, il vient d'embrasser le ballon. Les Girondins de Bordeaux seront en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs et l'auront bien mérité. C'est signé. Les Bordelais sont en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs.
On peut dire que Fernando Chalana est un gaucher pur et puis il va frapper du droit.
Il vous surprend ?
Ah ben, c'est pas surprenant, mais je me demande où le ballon est passé encore aujourd'hui. Bon, ça fait partie des images qu'on garde à jamais. Je m'attendais à tout sauf à ça. Parce qu'il avait, tellement une technique de très haut niveau avec ce pied gauche magique qu'il avait. Qu'est-ce qu'il va changer de pied ? Pourquoi ? Mais bon, c'est comme ça.
Le gaucher qui marque donc du droit et propulse son club en demi-finale d'une Coupe d'Europe. C'était il y a longtemps, se souviendront les nostalgiques des Girondins de Bordeaux qui, eux, viennent d'être rétrogradés en Ligue 2, un autre temps. En tout cas, Fernando Chalana avait disputé l'Euro aussi 84 avec le Portugal. Il jouait avec Alain Giresse notamment du côté de Bordeaux. Vous l'aviez croisé, Carlos Bianchi ?
Non, j'étais entraîneur à Reims à cette époque-là. Mais je dis le courage qu'il a eu, lui, parce qu'en étant gaucher, frapper du pied droit. Moi, je vais te droitier. Moi, dans un instant, c'est comme ça, je n'allais pas frapper un pénalty du pied gauche. Et lui, il a fait le contraire.
Ouais, il a surpris le gardien, on le voit sur les images.
Mais c'est incroyable. Je dis, il faut avoir un courage énorme. Et lui, il a eu dans une situation comme celle-là. En plus que... C'était un très grand joueur qui, malheureusement, il n'a pas pu donner tout ce qu'il aurait pu le donner à Bordeaux.
À cause
pour
de
le faire
blessure.
Plus fort. Il était 3 ans blessé, presque.
Ouais. Franck ?
Ouais, ça me rappelle évidemment beaucoup de souvenirs, parce que j'ai mon ami d'enfance qui était supporter des Girondins de Bordeaux, et on regardait tous les matchs, et notamment ce quart de finale contre Dnipropetrovsk.
Exactement.
De la saison 84-85, je l'avais regardé.
Aujourd'hui d'Ukraine. Hein.
Ouais, ouais. Et donc, je me souviens de Chalana, parce qu'avec mon pote, on en parlait tout le temps, on l'avait admiré pendant l'Euro en France, avec cette équipe du Portugal, qui avait été jusqu'en demi-finale, et évidemment, quand Bordeaux s'était intéressé à lui et l'avait recruté, on s'était dit, bah, tiens, peut-être une bonne affaire. À ce moment-là, Bordeaux est quand même un grand club du championnat de France. Et d'ailleurs, je crois champion de France.
Je crois à l'époque, oui.
Oui, champion de France, il me semble. Donc, mais malheureusement, comme le disait Carlos, sa carrière française, elle était vraiment plus qu'en pointillé. Et c'est triste de savoir qu'il est parti parce que je me souviens aussi qu'il y avait sa femme qui voulait absolument qu'il rentre au pays, quoi. Il y avait vraiment il s'ennuyait ici, quoi. Il était orphelin de son club de Benfica. Et du coup, ça me ramène à presque 40 ans en arrière. Et j'ai une pensée pour lui parce que, puis pour mon ami d'enfance, qui doit être bien triste aujourd'hui à l'annonce de cette terrible nouvelle.
Quel souvenir vous en avez,
Nabil ? Physique, sa moustache quand même, qui était quand même significatif, qui marquait un style.
Il avait des boucles aussi.
Après, moi, un vague souvenir peut-être d'un gros transfert aussi pour l'époque, non ? Je crois, financièrement, ça avait fait parler également.
À cette époque-là, Bordeaux était très costaud physiquement.
Financièrement
surtout. Oui.
Mais quelque part aujourd'hui, si on pouvait comparer, quel joueur on pourrait le comparer et quelle dimension de transfert, par exemple, est-ce que c'est Dybala qui signe à la Roma, j'en sais rien. À quel niveau on pourrait situer en fait son transfert de Benfica à Bordeaux pour situer le joueur?
Comme joueur, c'est difficile parce que lui n'était pas très, très attaquant. Vraiment un attaquant, il n'était pas un demi, il jouait entre les lignes.
Entre les deux, voilà. Ouais.
Il était très technique, il avait une bonne frappe. Et la valeur, tu sais, aujourd'hui, il y a des fois qu'il y a des tocards que tu le payes 50 bâtons. Il y a
c'est
des
pas autres, faux. Ouais.
Comprends, alors on ne peut pas lui donner la valeur.
Ouais. Paris avait recruté dans cette même saison un gars, un Autrichien, Niederbauer, qui était meilleur buteur ou l'un des meilleurs buteurs de Belgique, il a absolument rien fait et il avait signé au PSG. Il avait coûté cher. Il avait signé au PSG parce que le président Borrelli, paix à son âme, le trouvait très beau.
Et l'année suivante, c'est moi qui l'ai pris à Reims.
Et il était mieux ?
Non. Il n'a pas marqué un seul but.
Tu vois, Carlos.
On s'est planté. L'Autrichien, il avait une frappe extraordinaire, un jeu de tête extraordinaire. Mais il ne bougeait pas, il était nul.
Mais en Belgique, il était bon, on n'a pas compris.
C'était la politique de l'Autriche, quoi. Il s'est planté, quoi. La tête dans le sable, quoi.
Ah, ça ne valait pas quand même le talent de Chalana.
Je l'ai eu au stade de Reims.
Le président du Benfica.
Il est rhabillé, l'attaquant autrichien. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais...
En tout cas, le président du Benfica, Rui Costa, a promis aujourd'hui à Lisbonne de veiller à ce que la mémoire de Chalana se perpétue chez les supporters du Benfica Lisbonne.
La deuxième manche entre le PSV Eindhoven et Monaco. Un partout à l'aller. Les Monégas viennent pour s'imposer ici. Oh, l'égalisation de Gutiérrez, 89e minute. Oh, le centre, il est bon. Ce centre, et c'est le but de De Jong. Le troisième but du PSV Eindhoven. C'est terminé. L'AS Monaco passe à la trappe au troisième tour préliminaire de cette Ligue des Champions. C'est le PSV Eindhoven qui sort vainqueur après prolongation 3-2.
L'histoire se répète pour l'équipe du Rocher. Un an après avoir été sorti en tour préliminaire de la Ligue des Champions, Monaco a encore manqué l'opportunité de se qualifier hier soir aux Pays-Bas, éliminé donc en prolongation par le PSV Eindhoven de Van Nistelrooy. Vous venez de l'entendre. L'AS Monaco jouera donc la Ligue Europa, mais la principale compétition européenne échappe encore à ce club. Alors peut-être avait-il perdu il y a une semaine déjà, on va en parler, en obtenant seulement le nul 1-1 au stade Louis II. Le match retour n'a fait que consacrer ce manque d'efficacité. Alors, manque de chance ou les Monégasques ne sont-ils pas au niveau ? L'avis d'abord de leur entraîneur. L'entraîneur des Monégasques est le Belge Philippe Clément.
Les deux matchs, nous étions la meilleure équipe, mais ça, c'est les choses cruelles de foot. À la fin, c'est le résultat qui compte. C'était pas avec nous. Nous avons poussé jusqu'à la fin, jusqu'à les dernières secondes pour marquer le but de faire match nul et d'avoir des pénaltys, mais la réussite à la fin n'était pas là. Mais je peux pas demander beaucoup plus de mes joueurs qu'ils ont fait aujourd'hui. Mais maintenant, je veux voir des vrais gagnants. C'est plus facile quand tu gagnes d'être gagnant, mais le plus gagnant sont les joueurs qui sont prêts après la déception. Prends ça comme une motivation extra pour faire encore les choses plus beaux qu'en avant et plus fort qu'en avant.
L'entraîneur a essayé de trouver quelque chose de positif, Carlos, mais Monaco...
Il y a une suite, Annie. Il y a une suite et ça démarre le championnat. Et alors,
il a déjà démarré d'ailleurs, une victoire en plus de Monaco.
Il faut lui donner le moral que sûrement ils ont pris un coup sur la tête parce que...
C'est la deuxième année consécutive dans les dernières minutes.
Je dis la vérité, moi, ils ne se sont pas qualifiés parce qu'ils ont manqué de réalisme. Ça me donne l'impression. Parce que quand tu as un résultat, ça ne joue plus. Moi, je dis, comme entraîneur, moi, je disais toujours à mes joueurs, j'ai vu Beckenbauer frapper le ballon à la tribune. Et vous savez que c'était Beckenbauer, c'était le meilleur, le plus beau de tous les joueurs qu'il y a eu dans le football.
Pour préserver un résultat.
Eh oui, quand vous êtes obligé à préserver un résultat, il faut faire les choses que vous ne faites jamais. Parce qu'à la fin du match, vous êtes qualifié ou vous n'êtes pas qualifié.
Oui, parce que jusqu'à la 89e minute, ils étaient qualifiés.
L'impression, c'est que c'est beau de dire « Ah, Monaco, il a bien joué, on a frappé sur la transversale au match aller, on a frappé sur la transversale au match retour, etc. etc. » Mais à la fin, tu es éliminé. La réalité, elle est là. Alors je dis, il y a des fois qu'il faut être plus réaliste dans des situations comme celle-là. Ou tu passes ou tu casses.
Nabil Djellit, alors il faut être plus réaliste. Est-ce qu'ils ont manqué de chance ou est-ce qu'ils n'ont pas été au niveau?
Non, enfin, ils ont manqué de réalisme offensif, mais on ne peut pas dire qu'ils ont manqué de chance sur les situations défensives. Comment on peut se retrouver en fin de match avec un ballon deuxième poteau, avec trois joueurs du PSV Eindhoven face à un seul défenseur de l'AS Monaco? Là, il y a eu quand même un problème de rigueur, un problème de concentration et de gestion des émotions sur cette fin de match. Là où je suis d'accord avec le coach, je pense que hier, bon, bah c'est aussi le football, hein, c'est pas toujours le favori qui gagne. Je pense que sur les deux matchs, pour moi, la meilleure équipe, c'est
Monaco.
Pour moi,
c'est clair. On avait eu cette sensation face au Shakhtar Donetsk aussi.
Ouais, mais là, c'est encore pire parce que Shakhtar Donetsk, à la limite, c'est un client habituel des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est une équipe assez costaude sur les 10 dernières années avec beaucoup de joueurs de Brésiliens de talent. Le PSV Eindhoven, ça a été peut-être un grand club à l'époque de Chalana, de Bordeaux. C'est moins une grande équipe aujourd'hui. Ça reste quand même, je ne les sous-estime pas, hein, mais c'est pas l'équipe des années 80, par exemple, PSV Eindhoven. Donc, ils étaient prévenus. Ils n'avaient pas le droit. Ça fait 2 ans de suite. Ils ont fait des erreurs aussi, je pense, au niveau de leur intersaison et du mercato. Il y a un joueur qui est parti, qui n'a pas été remplacé. C'est Tchouaméni. On a vu que le jeune Matadzo, qui est un joueur en développement, qui a 20 ans, a été concerné par des situations qui ont mis en difficulté son équipe. Donc, peut-être qu'ils ont surestimé.
Peut-être qu'ils attendaient d'être qualifiés pour recruter.
Oui, mais
aussi.
Ça veut dire avoir surestimé ses capacités
leur équipe.
Et sous-estimé finalement ses adversaires-là, parce qu'hier il y avait une ambiance exceptionnelle aussi du côté du PSV à Eindhoven. Donc bon, c'est globalement catastrophique pour Monaco, catastrophique pour la Ligue 1. Et rappelons pour terminer que Monaco, la politique de Monaco, c'est quand même le modèle économique de mettre en vitrine ses joueurs grâce à la Ligue des Champions et ensuite les valoriser et les vendre. Il n'y aura pas de Tchouaméni à 100 millions d'euros chaque saison.
Franck, on a l'impression que c'est une équipe qui rechute dans le sens où ils sont éliminés en encaissant un but à la 89e minute. On se souvient, l'année dernière, c'était à peu près pareil, ils avaient pris un but de Shakhtar Donetsk. Et puis, si je ne me trompe pas, la Ligue 1, cette année,
oui,
ils prennent un but de
Lens
et qui fait que c'est Marseille qui est automatiquement qualifié et eux se retrouvent troisième soumis à ce tour préliminaire. C'est un défaut ou une erreur reproduit.
Ce sont des dangereux récidivistes, d'une certaine façon, comme vous les décrivez. Je pense qu'il y a également, et c'est à la lecture de la rencontre, à la fin de la rencontre qu'on peut dire ça, l'entraîneur s'est planté dans sa compo.
Oui.
Parce que c'est marrant, mais quand il fait entrer les Crépin Diatta,
Mbolo,
Mbolo surtout,
ça,
oui,
ça change.
Mais ça va beaucoup mieux.
Exactement.
Donc il s'est planté d'entrer dans sa compo, mais ça, on ne s'en aperçoit qu'après, et lui aussi sans doute. Et puis, comme l'ont dit Nabil et Carlos, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, ce manque de réalisme, c'est d'un moment donné de pourrir ce qui reste du match, de le pourrir. Parce que ils n'ont pas su le faire. Il y a un manque criard d'expérience, d'expérience de ce niveau-là. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. D'autant que, et vous le rappelez à l'instant, ça leur est déjà arrivé en championnat de France. Il reste quand même un certain nombre de garçons qui étaient concernés par cet événement de la dernière journée. Et vraiment, ils sont passés à côté. Franck, je pense que ça va entraîner peut-être une
raison,
petite...
Il y a eu deux intermittents du spectacle, notamment, bon, on peut quand même les viser, Minamino, qui a été nul au retour, ouais. Et Golovin, qui est intermittent du spectacle, qui n'a qu'un objectif dans sa carrière. Qui n'a qu'un objectif dans sa carrière, c'est de retourner en Russie le plus vite possible. À un moment, il faut faire jouer des joueurs qui ont faim, qui ont envie. Crépin Diatta, on l'a vu, il a apporté, il a percuté le
Sénégalais.
Il avait
déjà été bon en championnat.
Il avait été exceptionnel. Est-ce qu'il s'est dit, bon, je vais commencer avec eux et de toute façon, je les terminerai entre guillemets avec les remplaçants parce qu'ils vont apporter une telle folie, une telle vitesse dans le jeu qu'on va faire la différence. Ça peut être aussi une stratégie du coach.
Mais il s'est planté.
Mais le Monaco des dernières années où on a vu éclore notamment Kylian Mbappé qui ont réussi à ravir au PSG à un moment, c'était en 2017, le titre de champion de France. Ouais. Une équipe qui était flamboyante avec cet investisseur russe qui est Ribolovlev. On est quand même passé à autre chose, Nabil.
De toute façon, vous savez, c'est un modèle où c'est un peu la loterie, hein, c'est des paris. Quand vous êtes une plaque tournante de joueurs...
Oui, mais avant, ils vendaient Mbappé, ils vendaient des joueurs Mbappé, dont on se souvenait, alors que là, ils avaient Mbappé, Falcao pas, et tout. Là, oui, en ce moment...
Mbappé, ils n'ont pas vraiment acheté, c'est-à-dire qu'ils l'ont post-formé. C'est pas eux qui l'ont fait venir.
Oui, mais en tout cas, ils avaient des sacrés joueurs dans leur rang.
On va payer 10 millions et on va le vendre 100 millions. Mais vous avez raison, mais de toute façon, c'est leur politique. Et d'ailleurs, Paul Mitchell, qui est aujourd'hui le directeur sportif, qui a pris tous les pouvoirs, ce qui lui est demandé, le cahier des charges, c'est de mettre et de développer des joueurs. Alors,
pas de se qualifier en Ligue des Champions.
Si, mais la Ligue des Champions...
C'est une question économique, tout.
Oui, c'est qu'un business là-bas.
Ils oublient les jouets.
Oui, c'est un business.
On oublie les jouets au football, on oublie de chercher une qualification, d'être très important dans le gotha du football. La question, c'est d'arriver à la fin de la saison, pouvoir vendre pour 100 bâtons, pour pouvoir faire la saison suivante. Mmh. C'est tout.
Oui,
c'est,
non mais disons-le clairement, oui, c'est du trading.
Donc le résultat est le sportif disparaît, c'est ce que dit Carlos.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous pérenniser, vous ne pouvez pas stabiliser une équipe. Il y a toujours, du turnover.
On dirait qu'ils ne sont pas très bien économiquement. Parce que si tu es obligé à attendre de vendre un joueur pour 100 bâtons, ça laisse arriver deux ou trois fois. Avec Lemar, avec...
Ça ne va pas arriver à chaque fois.
Et à chaque fois, ça ne va pas arriver.
Mais après, ce qu'il faut faire, c'est trouver un entre-deux, peut-être avec une colonne vertébrale de joueurs un peu cadres qui restent, qui ne bougent pas, qui ne sont pas des joueurs amenés à être vendus, des joueurs expérimentés qu'on conserve et qu'on paye bien. Et autour, peut-être, effectivement...
Bonjour pour leur... Qu'ils aient confiance dans ce modèle-là. Hein.
C'est
ces fameux joueurs.
Ah ouais,
c'est pas. Tu leur dis, vous restez en fait. Et voyez, on vend tous les petits jeunes là qui vont être bons, puis vous restez. Hein. Vous bougerez pas.
C'est très instable psychologiquement pour les joueurs. Regardez le jeune Diop, il est très bon la saison dernière. Là, la saison elle redémarre, il n'est pas sûr d'être titulaire.
Ça a été souvent Monaco.
Fofana qui a été très bon là, contre le PSV Eindhoven l'année dernière, on recrute Jean Lucas. Comme on l'a recruté, il faut le mettre sur le terrain, etc. Donc c'est très instable psychologiquement pour les joueurs. Et le coach, c'est difficile d'être entraîneur de ce genre d'équipe en fait, parce que de toute façon, on ne pouvait rien projeter.
Ni rien prévoir. Et on apprend par nos confrères de l'AFP que c'est Malang Sarr qui est prêté par Chelsea à Monaco.
Oui, donc alors ils vont passer. Alors hier, on les a vus. Je sais pas si vous les avez vus. Hier, ils étaient à 4 avec deux centraux, Maripane et Dissassi, qui sont un peu les mêmes profils. Et le but de l'arrivée de Malang Sarr, qui a été formé du côté de Nice, c'est de jouer maintenant à 3.
Mais ils reviennent à 3 parce qu'à une époque, ils jouaient déjà.
Ils vont revenir à 3 et avec des pistons. Donc, Vanderson, le Brésilien, qui était pas mal. Ouais,
sauf que Maripane plairait à quelques clubs italiens. Alors on se demande.
Ouais, moi, ce qu'on m'a expliqué, parce que je suis un peu au courant de ce dossier-là, après, je dis peut-être que Maripane va partir, j'en sais rien. Mais on m'a expliqué que l'arrivée de Malang Sarr, ça faisait 4 défenseurs centraux de haut niveau. C'était aussi pour passer à 3 derrière parce que les deux, Maripane et Dissassi, c'est des profils qu'on
peut.
Ils se ressemblent trop. Voilà, ils sont... ouais. Et puis, ils sont lents.
Alors ça, c'est les conséquences pour un club où on a du mal à le suivre, même si chaque année, il nous séduit parfois en fin de saison, Franck. Ouais. Mais c'est vrai que cette année, ils ont fait une remontée incroyable et qu'ils ont terminé 3e du championnat de France. Mais les conséquences, elles sont aussi pour le football français. Et là, ça peut être plus grave.
Oui, il y a l'histoire des coefficients, voilà. Les coefficients UEFA où on a sur nos talons les Pays-Bas.
Avant, c'était le Portugal pendant longtemps.
La France a glissé au classement et donc
elle est toujours cinquième, mais menacée.
Mais c'est précarisé, notre position.
Position précarisée et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle puisque dans l'optique de la refonte de la Ligue des Champions, de ce qu'elle va devenir, il ne faudrait pas que les Pays-Bas viennent à passer devant la France parce qu'on perdrait...
Le cinquième aurait automatiquement trois places plus une quatrième où il faudrait passer par un tour préliminaire. En ce moment, on en a deux plus un. Et là, finalement, on se retrouverait encore dans une mauvaise position en tant que sixième européen.
Comme je le lisais dans le quotidien sportif français du sport et de l'automobile ce matin... En gros, le football français espère que les clubs néerlandais, il y en a quelques-uns engagés dans les autres compétitions, il n'y a pas que la Ligue des Champions, se cassent la gueule en fait, qu'ils aient des très mauvais résultats, qu'ils ne prennent pas de points, de façon à ce que la France puisse conserver ce fameux coefficient et reste devant en vue de la saison prochaine.
On se souvient d'ailleurs que
j'espère que les autres se cassent la figure parce que tu n'as pas su faire.
Voilà, L'année dernière, Monaco avait été éliminé par Braga, vous vous souvenez on se disait, ah là là, mais les clubs portugais. C'était en Ligue Europa.
Là aussi, il faut changer un peu les mentalités dans le football français. C'est un peu les jeudis de l'angoisse, si je puis me permettre, en Europa League. En Ligue Europa, pardon. C'est une compétition qu'on peut jouer, qu'on peut gagner ou qu'on peut espérer gagner, mais que les clubs français jouent rarement.
Non, les dernières
saisons... À part l'OM,
Marseille, il y a quand même...
L'année dernière, l'OM est allé jusqu'en demi-finale. On avait Lyon aussi, justement, qui était tombé contre l'Ajax une année.
Parfois, on préfère choisir le championnat, une qualification en Ligue des Champions.
Tout à fait. Tout à fait. C'est plus important le championnat que la Coupe...
La Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence, qui est la nouvelle compétition. On observera ça. Peut-être, faudra compter sur un autre club méditerranéen pour marquer des points à l'indice UEFA. Direction, justement, ce club, la planète Mars, avec la Méditerranée.
Tu sais, je viens d'une planète qui tourne autour d'un ballon. D'un monde où nos maisons vibrent quand les filets tremblent. Je viens d'un monde où le peuple a le sang bleu et blanc, capable de chanter tout son amour dans un aux armes. Chez nous, les ovnis parlent notre langue, les Sanchos sont de la famille, les Fadas sont des exemples, les Minos sont légendaires, parce qu'on vient de là où ça vient du cœur. Sous le regard d'une étoile, on peut renverser l'univers. Il faut le vivre pour le croire. Embarquer dans ce monde, c'est une autre planète. Et bienvenue sur Mars.
Alors Marseille, bien sûr, on les trouve très créatifs localement.
Espérons qu'ils le soient autant sur le terrain.
À Vélas.
Tout cas, on peut féliciter leur communication visuelle, parce que c'est agréable, ces petites vidéos, très sympa.
On se souvient l'année dernière, au-dessus du Vélodrome, comme ça, une aube ou je ne sais pas quoi, juste avant justement ce match.
J'avais bien aimé cette année, vous pouvez les retrouver de toute façon sur Twitter ou sur le site de l'OM. J'ai bien aimé la présentation de Chancel Mbemba, joueur de la RDC, elle était plutôt sympa. On a été le chercher dans une autre planète. C'était assez marrant.
Ils sont un peu extraterrestres, on va dire, dans leur communication. Mais ils ont créé un studio pour les rappeurs de Marseille aussi, l'OM, parce qu'effectivement, foot et rap, ça discute beaucoup. C'est évidemment pour séduire le jeune public, mais en tout cas, ça peut être intéressant.
Oui,
et
puis de toute façon, il y a un lien historique
entre
Marseille et le rap. Quand on sait qu'un des deux plus grands groupes d'histoire du rap français, c'est IAM. Ils mettent Planète Mars, c'est aussi des références à ce qu'avait initié le groupe IAM dans les années 80 et 90.
En tout cas, ce club était donc l'an dernier le dauphin du Paris Saint-Germain. Et vous allez l'entendre, il a attiré dans ses filets de la Méditerranée un beau poisson, ou peut-être un gros poisson. Accueilli comme une star hier soir à l'aéroport de Marseille-Marignane, un millier de supporters armés de tambours, de mégaphones, de fumigènes qui ont donc accueilli bruyamment la nouvelle recrue de l'OM. Le numéro 70, on l'a bien vu sur son maillot, Alexis Sanchez. L'attaquant chilien de 33 ans venait d'être libéré par l'Inter Milan. Il a passé sa visite médicale et il a donc signé ce matin, lui qui a déjà joué pour le Barça, on s'en souvient, avec Messi, avec Neymar à l'époque. Il a aussi joué pour Arsenal et Manchester United. L'OM a-t-il fait signer tout à l'heure une star du football d'aujourd'hui? On va se poser la question, mais écoutez ce que pensent certains de nos auditeurs.
Bonjour, bonjour Radio Foot International, Annie Gasny et ses compagnies. Moi, je suis un fan marseillais, je suis très heureux de cette arrivée d'Alexis Sanchez. Vraiment, il va nous faire du bien. C'est un joueur qui n'a pas perdu toutes ses qualités. Il était très, très, très bon à Arsenal et à Barcelone. Vraiment, merci.
Bonsoir Radio Foot, bonsoir à tous. J'embrasse la table. Voilà, le recrue de Alexis Sanchez leur permettra de remporter au moins un trophée depuis plus d'une dizaine d'années. Merci, bye bye.
Moi, c'est Zora Dipo-Kinshasa. J'aimerais vraiment remercier le président de l'OM pour avoir recruté Alexis Sanchez. Il aidera vraiment l'OM à dépasser un cap cette saison en Ligue des Champions et en Ligue 1.
Alexis Sanchez, est-ce une bonne recrue pour l'OM? Je dirais non. Non parce que c'est déjà 33 ans. Non parce que ça se blesse beaucoup trop, à mon avis. Non parce que le maire Alexis Sanchez est resté au Barça, tout en sachant que même au Barça, il n'était pas un titulaire régulier.
Je suis Valentin Naya depuis Ouagadougou. Je pense que Alexis Sanchez est un joueur qui a un passé glorieux, mais un avenir un peu douteux vu son âge. Et pour un club comme Marseille qui a des ambitions européennes, je pense que l'OM a intérêt à recruter des jeunes que des joueurs qui sont presque à la fin de leur carrière.
Bonjour Radio Foot International, Abdelkader Oudou depuis le Niger. Alexis Sanchez est une bonne recrue pour l'OM pourvu que les blessures l'épargnent.
Allô l'OM, le PSG est prévenu.
Et voilà Alexis Sanchez qui rentrera en piste sur Jump, bien sûr. Carlos Bianchi, vous avez entendu nos auditeurs. Je vous ai vu sourire parce qu'évidemment, on a les deux côtés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, pour l'Olympique de Marseille?
Non, je pense à des joueurs.
Oui.
Je pense à des joueurs. Et je crois que c'est un très bon joueur.
Aujourd'hui encore?
Aujourd'hui, l'âge, ça compte. Ça comptait pas tellement. Hein. Il y a des fois... qui on croit que ça compte beaucoup. Il y a des joueurs qui sont à un certain âge. Il a 33 ans. Mmh. Et la question, c'est comme il a dit quelqu'un, il a dit que très souvent, il est blessé.
Ouais.
Et ça, c'est un petit problème. Et il a passé par 4 grands clubs et il n'a jamais eu, disons, la continuité comme titulaire. Et toujours, il jouait pas, il arrivait un peu pan, et quand il était bien, il jouait, et des fois, il jouait pas. Il était tellement bizarre, sa carrière, parce que franchement, c'était un très bon joueur. La sélection du Chili, il a fait des matchs incroyables.
143 sélections avec le Chili.
Et des fois, on se demande si ce n'est pas un joueur pour entrer en cours de jeu. Parce que dans tous les endroits que lui, il était, des fois, il démarrait le match, il ne touchait pas la chic. Et après, il rentrait au cours de match, il faisait la différence, et son équipe, il gagnait. C'est incroyable.
Vous l'aviez vu, vous, à River Plate, quand il y était? Ça vous rappelle quelque chose? Est-ce qu'il est passé rapidement, là-bas?
Non, trop. Ouais. Trop rapidement.
Ah ouais, parce qu'il est parti en Europe après.
Il est parti tout de suite. Ouais. Il est parti à...
À Udinese, en Italie, en Serie A. Ouais. Ensuite, il a fait Udinese, après, Barça.
Barça. Ouais. Mais la question, elle est là. Elle n'a pas une grosse continuité, lui.
Mais malgré tout, on a eu l'impression, peut-être Nabil, que l'année dernière, à l'Inter, il était plutôt pas mal.
Il revenait un petit peu. Il n'était pas titulaire, mais parce que certes. Le titulaire, c'était Martinez et...
Lautaro Martinez avec...
Et Lukaku.
Dzeko, Lukaku, il était parti.
L'année dernière, Lukaku était à Chelsea.
Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, Lukaku, il était là avec Lautaro de Martinez. Et c'est vrai qu'Alexis Sanchez était remplaçant des deux. Bon, il en a encore sous la semelle, je pense.
Et il y avait Correa aussi cette année.
Correa, très bon joueur, intéressant aussi, ouais. Et là, Lukaku est revenu à l'Inter de Milan, de toute façon, on en parlera tout à l'heure.
Et l'autre était Dzeko.
Dzeko.
Et c'était tous les trois.
Ouais. Voilà. Il est rentré en Ligue des Champions face à Liverpool. Ouais.
C'est pour ça que je dis que c'est un joueur que je ne sais pas si c'est mieux de l'avoir comme réserve ou de qu'il soit titulaire.
Oui, mais là, c'est-à-dire peut-être dans un très, très grand club, les meilleurs clubs européens.
Il n'a pas sa place.
Il n'est plus titulaire ou il est en déclin relatif, parce que c'est plus compliqué. Mais là, il arrive dans un club où c'est la deuxième division européenne, en quelque sorte, à Marseille. Où, non, mais,
il faut voir où est-ce qu'il va jouer aussi, parce qu'attention... Lui, c'est pas un avant-centre. Hein.
Normalement, il va être associé à un autre attaquant de fixation qui pourrait être Milik.
C'est pour ça, parce que lui, c'est plutôt un attaquant qui se balade à côté de celui qui fait la tête. Hein.
Oui. Mm-hmm.
Il a appris ça avec Messi.
C'est un deuxième attaquant, ou un troisième attaquant. Ce n'est pas l'attaquant des pointes et pointes.
Franck, pour vous, il a un contrat d'un an pour l'instant avec Marseille. Oui.
Voilà.
Évidemment, un peu comme fait pratique Marseille ces derniers temps. Qu'est-ce que vous en pensez de cette recrue ? Alors, c'est quand même un grand nom, il est connu en tout cas.
Il a un CV incroyable.
Voilà, du côté de l'OM, c'est un bon coup pour le club ? Alors, marketing peut-être ?
Sans doute marketing.
Avec Tudor, ce qu'on a vu là.
Voilà, il faudrait poser la question au nouvel entraîneur de l'Olympique
de Marseille. Là, il va nous dire oui, évidemment.
Oui, c'est fantastique, c'est formidable. Bon, moi, je suis pas super séduit par... Je suis comme Carlos, en fait. C'est pas une question d'âge. C'est une question à la fois de régularité. C'est une question aussi de... Le fait que le joueur soit extrêmement fragile. Donc, dans quel état il arrive et dans quel état il va se maintenir.
Il est décrit quand même, Franck, comme un... Quand même, c'est important à dire, un grand professionnel... À la différence, par exemple, de Vidal, un autre qui a une hygiène de vie.
Avec qui jouait à l'Inter.
Le jour et la nuit.
C'est quelqu'un qui est... Bon, c'est quand même plutôt...
Et la nuit, oui.
Plutôt un élément à prendre en compte.
Non, mais Nabil,
ce qui veut pas dire qu'il va pas se blesser.
Grand professionnel, mais blessure à répétition. C'est quelqu'un qui n'a pas un statut de titulaire. Donc, en fait, il va arriver, il va pas se battre parce qu'en fait, on va lui dire, écoute, tu vois, mon gars, tu vas rentrer à la 55e.
Ah non, mais il va être titulaire, là. C'est,
mais tu sais.
On espère pour lui.
Il n'y a pas 1000 personnes qui l'attendent à Marignane pour qu'il reste sur le banc, là.
Non, mais c'est pas...
C'était un peu orchestré,
hein,
1000 personnes.
Ouais, en plus, ça a été bien décrit d'ailleurs.
Non, mais à l'échelle de l'OM, c'est une star. À l'échelle de la Ligue 1, c'est une star.
Il va être titulaire. Ah oui.
Il va commencer titulaire.
Oui.
Il va commencer titulaire.
Ah, mais je vous trouve dur sur lui, moi.
Mais dur, mais t'as vu ses statistiques,
Non, mais j'ai des réserves comme toi.
Il a marqué 5 buts l'année dernière.
Ne nous vend pas le Messi de l'OM.
Il
y a mieux dans ce club.
Mais tu sais qu'il y a des joueurs qui te posent des questions, comme lui dit qu'il est souvent blessé. Un joueur comme Pogba.
Oui.
Depuis qu'il est parti à Manchester, il était toujours blessé. Hein. Ça fait 4 ans, 5 ans.
Ouais, moi, je suis sceptique. J'espère effectivement que ça sera un catalyseur, ça quelqu'un qui va faire marquer et marquer. Mais tu me permettras d'avoir quelques réticences.
De toute façon,
on en reparlera
pendant la saison.
Ouais, voilà. Garder la bande et puis tu me la mettras dans le visage le moment venu.
En tout cas, ce Chilien, pourquoi a-t-il choisi l'OM ? Eh bien, tout à l'heure, pendant sa première conférence de presse, il a expliqué pourquoi il avait choisi l'OM.
Venir ici est un défi personnel. J'ai joué en Italie, en Espagne, en Angleterre. Et pour moi, venir en France, c'est une étape importante. Pour quelle raison ? Je vais vous expliquer. Je ne sais pas si vous connaissez un joueur qui s'appelle Lucien Goumet. Il était donc à l'Inter avec moi et il me parlait tout le temps de l'OM. Il me disait, l'Olympique de Marseille, c'est le club numéro 1 en France. Tout le monde souhaite y jouer un jour. Et c'est la seule équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Donc j'ai commencé à réfléchir à tout ça, à suivre un peu, et je me suis dit, pourquoi pas ? Venir ici, c'est un défi, car j'ai toujours envie de gagner. Et je vais aider mes coéquipiers pour tenter de remporter un titre.
Alors vous allez voir, il a bien appris sa leçon parce qu'il est déjà dans le mood.
Allez l'OM.
Bon, on a entendu d'autres dire ici c'est Paris, c'était pareil. Hein. Franck, non mais quand il dit le club français numéro 1, c'est peut-être aussi parce qu'il le dit, c'est le seul qui a gagné une Ligue des Champions.
C'est pas faux, mais...
Petite étoile dorée là.
Oui. Mais en termes d'engouement et d'enthousiasme
je connaissais
populaire...
Pas Marseille,
c'est un latino.
Comment ?
En termes d'engouement et d'enthousiasme populaire, on peut dire qu'on a le droit de penser que l'OM peut être le club numéro 1.
Il va démarrer titulaire, ne t'inquiète pas de ce côté-là. Après, c'est à lui, sur le terrain,
de défendre sa place.
De mériter.
Il a mis le public dans sa poche, en tout cas, mais il faudra le montrer sur le terrain. C'est pas tout d'arriver avec un joli nom.
C'est le reste, en fait.
La vérité, elle est toujours sur le terrain.
Ouais, c'est tout. Pour moi, tu sais qu'il y ait du monde qui vient de m'attendre à l'aéroport. Je préfère que ça soit au moment que je reparte, qu'il y ait du monde qui me dise bravo.
N'oublie pas que Beckham, il est venu au Paris Saint-Germain. La vérité, il était sur le terrain. Hein. Rarement, tu l'as vu. Hein.
Non, mais je suis d'accord qu'il est sur un déclin.
C'est toi qui as employé ce mot-là tout à l'heure.
Non, hein. Mais ça fait 4 ans qu'il a 1600 minutes sur les 4 dernières années. Mais l'année dernière, par exemple, c'est 17 matchs, 9 titularisations, 9 buts avec l'Inter de Milan. 9 buts en 9 titularisations.
Arsenal 2016-2017. 38 matchs, 24 buts, c'est sa dernière grosse saison. Alors je veux bien que ce soit pas un goal getter comme on dit, un goaléador. Mais
un attaquant, ça fonctionne aussi beaucoup au mental. Souvenez-vous de Falcao, que tout le monde avait enterré Falcao quand il était revenu d'Angleterre. C'était 5 buts maximum. Ils sont devenus champions de France. Donc attention. Ouais. À pas sous-estimer le cœur des grands champions.
On verra les passes dés aussi, on regardera ça.
L'orgueil.
On va poser la question à un Italien qui l'a vu évoluer ces derniers temps du côté de l'Inter Milan. Hein, c'est presque sous son balcon. Matteo Cioffi, bonjour.
Bonjour, bonjour Annie, bonjour et bonjour à tous.
Alors Matteo, ciao, Matteo. On continue, on le garde dans notre équipe, on ne le laisse pas être recruté par d'autres.
Ah non.
Matteo, est-ce que Sanchez a laissé une bonne impression, un bon souvenir du côté de l'Inter selon vous? Merci Matteo.
Alors, yes. Là j'ai déjà répondu avec ce
petit oui, son. On a compris. Non.
Voilà, non, le Chilien n'a pas vraiment su s'imposer dans cette équipe. Et lui, les tifosi interistes se rappelleront de deux choses. Tout d'abord, son fabuleux but qui a permis à l'Inter cette année de battre la Juve en finale de la Supercoupe d'Italie. Et là, bravo. Mais après ça, pas autre grand chose à signaler. Et deuxièmement, Sanchez était fameux à cause du fait qu'il était le joueur du club une année qui gagnait le plus d'argent. 7 millions d'euros qui paraissaient à tous un chiffre exagéré et insensé. Donc là, son transfert permettra à l'Inter d'épargner presque 8 millions et demi d'euros, même si bon, le joueur obtiendra une indemnité de 5 millions d'euros. Donc vous comprenez bien que son départ n'a pas soulevé beaucoup de rage de la part, ni ouais. Des larmes. On n'a pas vu des larmes couler à Milan.
C'est en fait Veretout qui vient aussi d'Italie, qui vient de la Roma, qui a actuellement le meilleur salaire du côté de
la Serie A pour remercier l'Olympique de Marseille grâce ouais. À...
Il y a un peu d'argent flou, là.
Alors, Matteo, restez avec nous parce que justement, la Serie A reprend le week-end prochain. Petit clin d'œil à Carlos, hein, ses chants.
Grande Antonello.
Les chants de l'AS.
Siamo andati a mangiare insieme tanti volte.
De l'AS Roma. Et oui, certains tifosi piaffent d'impatience, comme ceux-ci, ceux de l'AS Roma. Alors, comblés, eux, par le recrutement, vous vous en souvenez tous, on en avait parlé en fin de saison. Ils avaient si bien accueilli Paolo Dybala. Ils ont rempli cette semaine le Stadio Olimpico pour juste un match de préparation Shakhtar Donetsk. Alors ils ont eu raison de se déplacer, hein, 5-0, hein, on mégote pas. La Serie A reprendra donc samedi soir. Matteo Cioffi, parlons un petit peu mercato. On a donc Sanchez qui vient de partir, on a Lukaku par exemple qui est revenu du côté de l'Inter. Il y a eu quelques changements comme ça. Quelle arrivée et sortie de club, pas forcément du pays, notable en Italie? Je pense peut-être à Koulibaly qui a quitté Naples.
Oui, tout à fait. C'est vrai, le championnat a perdu deux éléments défensifs importants, De Ligt et Koulibaly. Mais si d'un côté, le départ du Néerlandais n'a pas été vécu de façon choquante de la part des tifosi de la Juve, car ils n'ont jamais eu un très grand feeling avec ce joueur. De l'autre côté, le départ du Sénégalais était bouleversant pour les Napolitains, car le défenseur était devenu l'emblème de l'équipe. Mais bon, Aurelio De Laurentiis, on le sait bien, on l'a compris, aime beaucoup l'argent. Il n'a pas su renoncer à 40 millions qu'on lui a proposé de la part de Chelsea. Mais bon, il y a donc eu des départs, mais aussi des nouvelles recrues qui sont très attendues, comme les Belges Charles De Ketelaere. J'espère de l'avoir bien prononcé, parce que si on n'a pas compris comment on dit De Ketelaere, Dakatler, bon, quelque chose comme ça. Mais bon, l'ex-Bruges s'ajoute à une liste de joueurs belges qui est en train de devenir toujours plus grande, parce qu'il y a eu, vous l'avez dit, le retour de Lukaku, mais aussi l'arrivée de Divock Origi de Liverpool. Ces deux joueurs-là sont en train de veulent se relancer après des petits passages à vide en Premier League. Mais la presse est aussi intéressée à quelques nouveautés qui se sont très bien débrouillées dans les matchs amicaux. Par exemple, l'ex-bordelais Adli, qui a tout de suite été apprécié par les supporters du Milan, tandis qu'à l'Inter, les milieux de terrain albanais Christian Aslani s'annonce déjà comme pièce stratégique dans le jeu de Simone Inzaghi. Donc Adli, Aslani, les deux noms à retenir pour l'instant.
Qui vous retiendriez, vous, ou ajouteriez Franck Simon?
Il y a Onana qui est arrivé aussi du côté de l'Inter, hein, comme gardien de but.
Qui est arrivé en janvier.
Ouais, qui est... Donc Onana, c'est quand même pas mal, comme, je trouve, comme recrue. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Non, c'est ce qui m'a épaté, c'est le nombre de départs du côté de la Juve. Il n'y a pas que De Ligt, hein, mais il y a d'autres. Il y a bien sûr, on a parlé de Dybala. Je crois que Bernardeschi également a pris la direction de l'Amérique du Nord. Et puis, qui d'autre? À la Roma, je crois aussi.
À la Roma, c'est intéressant.
C'est super intéressant ce qui s'est passé. Il n'y a pas que Dybala, il y a un gardien, il y a Nemanja Matić, il y a
Wijnaldum.
Oui, Wijnaldum qui est arrivé.
De Paris Saint-Germain. Bon,
ouais,
et Naples, il est parti, le Belge, Mertens.
Mertens, oui, qui est pas sous-estimé.
Je crois que c'est le plus grand, le meilleur buteur, non, de l'histoire. Il n'est pas loin. Hein.
Tout à fait.
Oui, c'est ça.
Tout à fait. T'as vu?
Dries Mertens, en Turquie. En Turquie.
Après, il y a un joueur aussi à pas sous-estimer, Matteo, peut-être, on n'en parle pas beaucoup. Bon, c'est vrai que du côté de la Juve, il y a quelques arrivées, mais dans les départs, moi, il y a un joueur dont on ne parle jamais, qui est pour moi un des meilleurs joueurs offensifs européens des dernières années. On l'a vu avec la Croatie, c'est Perisic, qui avait été très fort avec le Bayern et qui quitte l'Inter pour Tottenham. Ça, c'est un coup dur quand même pour l'Inter, je trouve. Parce qu'on parle d'Alexis Sanchez qui s'en va, mais Perisic, personne n'en parle.
Oui, personne n'en parle parce que Perisic est rentré un peu dans l'ombre lorsqu'il y a eu l'affaire Lukaku. Ils ont vendu Perisic, en même temps ils achetaient Lukaku. Donc, disons, les tifosi de l'Inter ont été, comment dire, on les a amenés sur un autre chemin pour faire en sorte qu'ils oublient le départ de Perisic. Donc voilà, mais vous savez, l'Inter a énormément besoin d'argent. Donc moi j'ai comme l'impression qu'il y aura un autre grand départ du côté là des interistes. Et peut-être là, Paris, vous êtes à connaissance de l'intérêt du PSG pour le défenseur Skriniar.
Ouais. Matteo, alors par contre, je constate qu'on ne parle pas de Pogba. Paul Pogba, c'est quand même une arrivée théoriquement star d'un joueur champion du monde dans la Serie A. Un retour,
oui, tout à
en
fait,
plus.
Bah, écoutez, Paul Pogba a été accueilli vraiment comme un roi par les supporters de la Rome, de la Juve. C'est vrai que après un seul match, il s'est déjà blessé, mais normalement, il devrait rentrer sur le terrain vers le début d'octobre parce que renoncera faire opérer. Voilà, donc oui, mais tout à fait. Pogba, c'est le pilier, c'est celui qui devra être le pilier de l'équipe de Max.
Mais est-ce qu'on y croit? On croit un rebond de Pogba en Italie, en Serie A?
La Juve a misé beaucoup sur ce joueur. En plus, vous savez, cette année, c'est le premier siècle de propriété des Agnelli du club, donc ils peuvent pas rater cette saison comme ils l'ont fait l'année passée. Il faut fêter les 100 ans, ils ont continué à le répéter. Ouais. Et bien entendu, Pogba sera le pilier du milieu de terrain avec, n'oublions pas qu'il y a Di Maria la Juve, et n'oublions pas aussi que dans quelques semaines, j'espère dans quelques semaines, le club retrouvera Federico Chiesa n'oublions pas, et certainement
blessé, effectivement.
La grande star de l'équipe.
Carlos, Paul Pogba, qu'est-ce qu'il faut en penser? Il arrive de Manchester où on voyait quand même que, d'abord, il s'est pas mal blessé, mais il avait aussi des sautes d'humeur. On a l'impression un peu qu'il jouait bien quand il avait envie. Il n'a pas beaucoup joué en équipe de France. Lui aussi pense évidemment à la Coupe du Monde. Il se blesse au mauvais moment. Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il avait été Pogbol, hein, je crois que c'est ça, hein, vous l'aviez Pogba surnommé comme ça, hein,
Matteo.
Pogba, bon. et c'est vrai que c'est un joueur qui a brillé là. Le retour, c'est toujours un peu...
La question, c'est qu'il n'a pas eu de continuité les 3-4 dernières années.
Depuis qu'il est champion du monde.
Et ça fait beaucoup. Et un joueur, il a un physique très important, lui.
Très imposant. Ouais.
Il a pris de la bouteille dans le sens qu'il a 4 ans de plus. Et alors, quand vous perdez votre continuité...
Vous y croyez ou pas?
Moi, je ne sais pas comment la formation de l'équipe de la Juventus. Depuis 3-4 ans, la Juventus, ce n'est plus la même. Milan et l'Inter sont plus forts.
Alors justement, on va écouter Massimiliano Allegri, l'entraîneur de cette formation de Turin. Je crois qu'ils ne se sentent pas forcément pas encore des favoris dans cette compétition.
Les autres équipes se sont bien renforcées, c'est le cas pour la Roma, pour l'Inter aussi. Pour ce qui est de l'Inter Milan, du Milan AC et de la Roma, ce seront trois équipes beaucoup plus fortes. Ce sera très difficile de remporter le championnat. Cette saison sera particulière. Donc il faudra bien travailler parce que nous jouerons un mini-championnat pendant trois mois et que nous nous battrons aussi pour une place en Ligue des Champions.
Matteo a écouté Massimiliano Allegri. Alors, on se souvient de la Juve qui avait, si je ne me trompe pas, aligné 9 titres de champion d'Italie hein, avant de se faire détrôner. Est-ce qu'on va avoir encore les clubs milanais en haut du classement comme ces deux dernières saisons?
Un duel milanais pourrait bien se répéter. Les tenants du titre du Milan AC ont montré d'être en bonne forme pour l'instant. Les supporters sont surtout impatients de voir l'œuvre Charles de Ketler. Qui est le transfert le plus coûteux depuis que le fonds financier Elliott a acheté le club lombard, car le Belge a été payé 32 millions d'euros. Et dans ce rencontre amico, on a remarqué donc que le Rossoneri reste très uni, qui était vraiment leur très grand atout l'année passée. L'Inter de sa part est encore en phase de réglage. La question que tout le monde se pose est comment Romero Lukaku saura s'adapter au jeu de Simone Inzaghi, qui est très différent par rapport à celui de Antonio Conte, car avec Inzaghi, l'action offensive est très structurée, s'appuie beaucoup sur les deux flancs, le gauche et droite, chose qui oblige l'avant-centre à jouer dans des espaces plus réduits, peut-être trop près de son fidèle coéquipier Lautaro Martinez. Mais on connaîtra la réponse déjà samedi, car l'Inter jouera samedi comme l'AC Milan.
Oui. Carlos, au vu de ce qu'on sait pour l'instant, évidemment il n'y a pas eu la première journée, qui vous voyez dans cette Serie A?
Les Milanais, et après je vois beaucoup, parce que j'ai confiance à l'entraîneur qu'il est très réaliste, hein. Ce n'est pas un entraîneur que je peux dire que ça me plaît beaucoup, mais qu'il est très réaliste, qu'il peut avoir des résultats, c'est la Roma.
Ouais, oui. C'est une curiosité, la Roma. Hein. Moi, j'ai l'impression que dans la hiérarchie un peu du football italien, ils vont passer devant Naples. Naples, je ne les vois pas. La perte de Koulibaly, perte de Mertens, Osimhen qui serait aussi également sur le marché s'il y avait une offre très importante.
C'est parce qu'il veut jouer la canne.
Pardon ?
Insigne, il a resté ?
Insigne, ouais, il est toujours là. Ouais, ouais, ouais,
Non, il n'est pas là.
Ah, il n'est pas là, il est parti.
Il est parti aux États-Unis, non ?
Ah oui, c'est vrai.
Il est parti aux États-Unis ?
Avec Bernardes, ouais, les deux.
Ils sont sur Raspadori, si je ne dis pas de bêtises, Napoli ?
Non, Raspadori, on le donne très proche du Napoli, non ? Mais vous savez, Nabil, la Roma, c'était la regina del mercato, la reine de ce mercato. Là, les tifosi sont en train de rêver, hein, moi je vous le dis. Je suis encore à la plage, il faut que je vous le dise en toute franchise. Je suis encore à la plage et il y a plein de Romains à qui je demande comment vous voyez votre équipe. On va gagner, on a déjà gagné la Ligue européenne. On va voir si on arrivera à gagner le Scudetto.
Franck, pour terminer, vous, qui voyez-vous une équipe autre que celle qu'on a citée ?
Non.
Pareil.
Effectivement, le Milan avec la Roma pour venir bousculer peut-être cette hiérarchie, ce qui serait bien.
C'est vrai que le travail de Pioli. Ouais. Pioli fait amuse et fait chanter. C'était assez amusant, hein, Matteo, vous nous avez signalé ça.
C'est le tube de l'été.
Voilà, le tube de l'été parce que le grand DJ Bob Sinclair est arrivé en Italie. Il a mis ça et tout le monde chantait Pioli. Il se dit mais qu'est-ce que c'est avec les mains. Et puis finalement, le jour d'après, il chantait parce qu'il a compris qu'il était Pioli. On lui a vite expliqué. Et c'est vrai que le travail de Pioli est intéressant du côté du Milan AC. Merci beaucoup, Matteo. Bonne fin de vacances, alors, si on a bien compris.
Ouais, merci à vous.
Merci. Merci, messieurs. Merci Carlos, Franck et Nabil. Ouais, on se retrouve demain.